Nous ouvrirons maintenant la parole de Dieu pour lire le texte dans la Genèse, Genèse 2, les versets 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Le temps passe. Les gens passent. Et des meilleurs. Voilà pourquoi je me suis senti poussé ce matin à vous parler de passation. Non pas de pouvoir, car nous sommes dans l'Église pour servir. Mais parce que le temps obéit à un cycle inéluctable de passation. Les saisons, d'ailleurs, celles-ci tardent à arriver. Les administrations, il y a eu à la fois au niveau de l'Union, des églises adventistes franco-belges, mais aussi de la Fédération France-Nord, des changements d'équipe. Et vous savez que lorsque une nouvelle équipe fédérale se met en place, la première des choses qu'elle fait, c'est réfléchir aux mutations pastorales. Et il y aura un nouveau pasteur dans cette communauté que j'ai la joie et le plaisir de vous annoncer, même si j'imagine que certains sont déjà dans la confidence. Vous passez d'un Philippe à un autre, puisque Philippe le Duc va succéder à Philippe Bopp. Je crois qu'il y aura au moins une heureuse dans cette assemblée, sa maman. Mais bien plus que ça. Le temps passe. Fin d'une année ecclésiale, début d'une prochaine avec un nouveau pasteur. Même le bâtiment va d'une certaine façon passer, du moins être rénové. Ce qui nous invite à prendre quelques instants pour réfléchir ensemble sur la notion de passation. Comment vivre au mieux toutes ces passations, toutes ces transitions? Et le texte que nous avons lu ce matin me semble particulièrement approprié pour ce faire, car il me semble recéler quelques pépites, quelques trésors, nous aidant à passer les différents moments de notre existence au mieux. La première des remarques, c'est que Dieu s'arrête. Et nous confondons souvent cet arrêt avec un repos, c'est-à-dire une farniente. Dieu ne va pas faire la sieste, le sabbat. Il n'est pas inactif, le sabbat. Il passe le relais. Il passe le relais. Prenons un exemple. Dieu a créé les champs de blé. Mais si vous n'avez pas un homme, plus exactement un cuisinier, pour faire un bon gâteau, jamais vous n'allez manger le gâteau. Jamais vous ne rendrez productif l'épi de blé. Et voilà pourquoi le sabbat, Dieu ne se repose pas, mais il passe, il transmet. D'ailleurs, si nous voulons comprendre cet enjeu transitionnel relatif au texte que nous avons lu, il faut lire celui qui précède, le chapitre 1 de la Genèse et le cahier des charges qui est confié à l'homme, que l'on pourrait résumer en un mot, en un verbe, garde, chamar en hébreu. Et c'est un gardiennage particulier. Tout appartient maintenant. Je te donne tout. À toi de bien entretenir. À toi de développer. À toi de garder ce jardin. Le cahier des charges est donné, il faut maintenant que les compétences le soient aussi. Voilà pourquoi le sabbat, non pas inaction, mais plutôt passation. Vous remarquerez que Dieu est un saint psychologue. Et je vais peut-être gêner certains dans ce que je m'apprête à vous livrer maintenant, mais peu importe, parce que j'y crois. Vous avez probablement déjà entendu parler du complexe d'Œdipe. Tu es le père. Et j'aimerais à ce propos vous lire quelques mots que j'ai trouvés à ce propos. Ainsi, d'un lien affectif qui s'était formé au début et où le petit garçon prenait son père comme modèle et comme idéal, naît ensuite un sentiment d'hostilité et un désir de remplacer le père également auprès de la mère. Je vous rassure, je ne pense pas qu'il s'agisse des mêmes enjeux au moment de la passation originelle et sabbatique particulièrement, mais je crois qu'il y a un petit peu de cela, non pas que l'homme soit hostile au père, non pas que l'homme ait besoin de tuer le père, mais l'homme pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir garder ce jardin en toute conscience, en toute liberté, en toute potentialité, Dieu a besoin tout simplement de se supprimer, de tuer, entre guillemets, ce père qu'il est. Voilà aussi pourquoi Dieu et l'homme vont profiter ensemble de ce temps, non pas dans l'inaction, mais probablement dans la concertation, dans le conseil donné, dans le pointage des qualités exceptionnelles que Dieu a placées en l'homme afin de l'aider à prendre son envol, en lui disant « Tu es tellement doté de qualités, car après tout, c'est moi qui les ai créées, que je peux m'effacer. Tu dois pleinement t'exprimer. » Voilà aussi comment comprendre la qualité d'une passation. L'un doit partir, l'autre doit venir. Ça nous rappelle certaines paroles du Nouveau Testament. Il est précieux que je m'en aille. Vous pensez au Christ. Le Saint-Esprit, le Paraclet, lui succédera. Nous sommes ici aussi dans cette logique. Tout ceci me fait penser à un film que vous avez peut-être déjà vu, qui commence à dater, Itinéraire d'un enfant gâté, signé Claude Lelouch, dans lequel Jean-Paul Belmondo a ô combien célèbre, joue le rôle d'un homme vieillissant qui avait réussi son existence. Il était artiste de cirque, homme d'affaires également, et il comprend, pour peut-être plusieurs raisons, le besoin de s'effacer, de profiter de la retraite, mais surtout afin de permettre à ses enfants qui ont toujours vécu dans son ombrage de s'exprimer à leur tour pleinement, qu'il lui est maintenant venu le temps pour lui de s'effacer. C'est un peu ce que fait Dieu ici, ce qui nous ramène à la bonté de Dieu, à la générosité de Dieu, à l'humilité de Dieu. D'autre part, pour qu'une passation soit bien faite, il faut que le Père s'efface, laissant les possibilités à son Fils, à celui-là même qu'il a créé, plein de ses potentialités, mais il faut aussi qu'il y ait une transmission. Nous l'avons déjà plus ou moins évoqué, cognitive, intellectuelle. Transmettre les dossiers, nous dirions aujourd'hui. Et c'est là que le sabbat intervient aussi particulièrement. J'utilisais l'exemple de la passation que le Christ indiquera concernant l'Esprit Saint. Il vous est avantageux que je m'en aille. Le Paraclet doit venir. Mais quelle est la fonction de ce paraclet? Pour ça, je lirai deux textes. Jean 14, verset 26, « Ne le cherchez pas, on ira plus vite, le temps nous est compté. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous appellera tout ce que je vous ai dit. » Dans Jean 16, les versets 13 et 14, ce paraclet est appelé l'Esprit de vérité. Et ceci nous rappelle le texte bien connu, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'Esprit de vérité nous conduit à Christ, car il est vérité. Lorsque nous nous arrêtons sur les titres qui sont ici donnés à l'Esprit Saint, le Paraclet et l'Esprit de vérité, ils sont révélateurs de sa fonction et de la nécessité d'application de cette fonction, suggérant du coup le retrait christique. Le Paraclet ou le paraclétos, c'est le défenseur, c'est l'avocat. Mais l'avocat de qui? L'avocat de Christ. Il est avantageux pour vous et quelque part pour moi que je m'attenaille afin qu'un avocat, le paraclétos, prenne la place, les devants. Et qu'il fasse quoi? Qu'il me défende. C'est le rôle d'un avocat. Le paraclétos, l'Esprit Saint, défend Jésus-Christ. Il le défend comment? Ben dans le cœur des croyants. En plaçant dans celui-ci tout ce qui était en Christ, et en indiquant grâce à ce dépôt et à ses effets combien il est bon, combien il est utile de vivre ainsi. Le paraclet restitue dans chacun de nous ce que le Christ a pleinement et parfaitement exprimé tout le temps de sa vie ici-bas. Voilà en quoi il défend le Christ et à travers cette défense christique chacun de nous. Mais il s'agit aussi d'un esprit de vérité. Nous avons dit que cette vérité, il fallait aussi en voir la pointe en Jésus-Christ. L'Esprit Saint, l'esprit de vérité nous conduit à Jésus-Christ, il nous conduit à l'enseignement de Jésus-Christ, à dépendre de Jésus-Christ, à regarder ce que celui-ci a dit, a fait, à considérer tout cela et à nous l'approprier. Je crois qu'il est un risque dans la pratique chrétienne, c'est celui de l'objectivisation. Souvent nous nous tenons à distance des symboles de notre foi, des rites, je pense au baptême, je pense à la scène, et quelque part à travers tout cela, du Christ qui est derrière, qui est fondement de tous ces gestes. Pourquoi? Parce que nous voulons, par sécurité ou par intérêt, par curiosité intellectuelle, ne serait-ce que cela, mettre une distance entre toutes ces choses et à travers elles, Christ. L'esprit de vérité nous conduit non seulement par l'intérêt que nous trouvons dans l'enseignement du Christ, à ouvrir la porte de notre cœur à Christ, à ne pas vouloir tel un objet le mettre à distance, objectiver, mais au contraire, être capable de quelque chose qui est très difficile au cœur de l'homme, nous ouvrir pleinement, nous abandonner, nous livrer à Christ. Et enfin, le paraclétos, l'esprit de vérité, nous conduit aussi à interpréter, à comprendre les choses à venir. Et je crois qu'il y a là une petite pointe adventiste. En effet, l'une des caractéristiques de l'Église adventiste, c'est bien cet intérêt pour les choses finales, et nous en avons d'ailleurs parlé ce matin dans le cadre de l'école du sabbat. Kouriaké emera, le jour du Seigneur. Et nous comprenons par là, c'est du moins l'une des acceptations possibles, l'interprétation possible, le jour où le Seigneur reviendra. Ce jour est précédé de signes, indiqués dans Matthieu 24 par exemple, mais aussi dans beaucoup de textes, de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Et il me croit être revenu à notre communauté de foi, et ce n'est pas du triomphalisme religieux. C'est tout simplement l'indication d'une inspiration particulière de Dieu. Qu'il revient à notre Église de crier au monde ce message-là. de le dire haut et fort, oui, le Christ revient. Mais qu'est-ce qui nous permet de l'attester bibliquement, si ce n'est le travail que l'Esprit de vérité, qui nous tourne vers le Christ, conduit dans nos esprits, éclairés. Enfin, il est, pour qu'une passation soit bien réussie, pour que nous puissions passer d'un temps à un autre, d'ailleurs notre économie va passer, quand le Christ reviendra, nous serons dans le royaume de Dieu, le royaume messianique. Tout est passation. Il est un dernier point sur lequel nous nous arrêterons rapidement. C'est celui de la contemplation. J'ai souvent remarqué que nous sommes enclins à critiquer d'autres confessions, chrétiennes notamment, et rarement à remarquer ce que eux ont, et peut-être pas nous. Et je pense aux contemplatifs, aux ordres contemplatifs, qui ont parcouru dans la seule église de cette époque, l'église catholique romaine, l'histoire et le développement de celle-ci. Et qui dit contemplatif dit aussi mystique. Et parmi ces mystiques, il en est un, peut-être le plus fameux, Maître Eckhart. La contemplation est une forme de prière dans laquelle la personne se tourne vers Dieu afin de s'unir à lui. Elle implique de détourner le regard ou l'attention de tout ce qui n'est pas Dieu. Pour les mystiques, la contemplation de Dieu passe nécessairement par le deuil de toutes les réalités créées et donc de son propre moi. C'est ce que Jean de la Croix appelle la nuit obscure. Il y a presque de la poésie dans cette citation. Voilà une définition de la contemplation. Il y a de la rigueur dans la contemplation. Il y a de la constance, il y a de la persévérance. Tout n'est pas que facilité. Et je crois que le sabbat originel, et quelque part tous les sabbats qui ont fait suite, doivent intégrer une dimension contemplative. Être capable, particulièrement pendant ces 24 heures-là, de faire fi de tout ce qui n'est pas Dieu, pour ne se préoccuper que de lui. Maître Eckhart dira encore que la contemplation repose sur deux piliers. Le développement de la foi. Plus nous contemplons qui, Dieu, qui, le Christ, plus notre foi se structure, s'étend. Et plus notre foi nous conduit à l'espérance. Et nous retombons sur l'un des piliers forts et historiques de notre Église. Mais en même temps, puisque foi qui conduit à l'espérance sont fortes dans le cœur, dans l'esprit du croyant, il rebondit sur le terrain de la charité. Et nous le disions ce matin en école du sabbat. Lorsque, parce qu'entre autres nous contemplons pendant le sabbat, le Christ, notre foi se nourrit et nous conduit à espérer, il est un corollaire inéluctable, celui du témoignage. On ne peut pas être croyant et ne pas dire. On ne peut pas être croyant et ne pas témoigner. Et enfin, l'intérêt principal de la contemplation. N'est-il pas en voir dans la focalisation sur la personne du Christ? Nous allons nous livrer dans quelques instants à un geste coutumier, habituel dans l'Église adventiste, quant à sa forme en tout cas, et aussi son rythme, mais coutumier dans toutes les traditions et autres églises chrétiennes sous diverses formes, il est vrai, et plus fréquentes, la Sainte Cène. Nous allons précéder ce temps-là d'un temps d'ablution. Mais qu'allons-nous faire si ce n'est contempler à chacun des moments de ces temps la personne de Jésus-Christ? Et quel va être l'effet de cette pratique? Un triple effet. Tout d'abord, aiguiser le champ de notre conscience morale. nous aider parce que cette partie qui est à travers elle la contemplation du Christ, à mieux discerner ce qui est bien de ce qui est mal dans notre existence. Le deuxième intérêt sera celui de la révélation. Par ce geste, nous allons permettre à Dieu, à Christ, à l'Esprit, de nous donner un message particulier et surtout être capable de l'entendre, de l'accepter et de l'interpréter. Vous savez, il y a parfois des gens qui viennent vous dire un mot, une phrase. Il se peut d'ailleurs que ces gens-là ne soient pas croyants. Et vous comprenez que c'est Dieu qui vous parle. C'est une réponse que vous attendiez. Eh bien, cette capacité à comprendre, à interpréter ainsi la parole d'autrui, c'est ce que nous appelons la révélation. Et plus nous contemplons le Christ, au moment de la scène notamment, plus nous ouvrons nos esprits à ce type de possibilité de révélation. Et enfin la communion. Ce pain que nous allons manger, ce jus de raisin que nous allons boire, nous ramène directement à la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Nous voyons combien le lien à ce moment-là particulièrement est étroit, tissé entre lui et nous. Nous allons nous donner la possibilité d'une communion, d'une fusion. Il y aura des effets à cela. C'est parce que nous participons à ce temps particulier, dans l'esprit qui convient, l'état d'esprit qui convient, que nous allons peut-être cet après-midi, demain, après-demain, avoir envie de rencontrer dans le tumulte de nos activités, le Christ, en aménageant un petit temps, quelques minutes de prière, parce que ce que nous aurons goûté dans quelques instants, nous voudrons le retrouver demain, après-demain ou plus tard. Nous allons renforcer le désir de communion, d'intime proximité avec le Christ sauveur de l'humanité. Amen.